Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et comme chaque semaine, on va détailler l'actualité économique avec notre spécialiste de la question, Nicolas Purpich. Salut Nicolas.
Salut Christophe.
Alors on va parler de nos vieux amis. Alors pendant un moment c'était les banques, là maintenant c'est de plus en plus les supermarchés. La notion de monopole hein, des grands supermarchés qui pourraient bientôt être pénalisés pour simplement bien leur relation plutôt nauséabonde avec les fermiers et les autres fournisseurs. Éclaircissez-nous sur cette question.
Voilà, donc il y a eu une enquête qui a été menée par un ancien ministre du Parti travailliste, Craig Emerson, qui était quelqu'un de très connu. C'était aussi c'est toujours un économiste. Et donc c'est lui qui a mené l'enquête sur les supermarchés, donc principalement sur Coles et Woolworths, parce que, comme on le sait, l'Australie a un système très très concentré. Coles et Woolworths, ils ont 2/3 du marché entier. Après ça, il y en a d'autres, il y a IGA, il y a d'autres petits, mais principalement c'est eux qui ont le pouvoir. On a déjà parlé de comment ils peuvent influencer les prix, qu'il y a des fermiers qui souffrent, c'est très difficile.
Il y en a beaucoup, juste pour vous interrompre, il y en a beaucoup qui disent que Aldi est un vrai concurrent, mais quand on regarde sur l'Australie entière, Aldi n'a que 10% du marché. Ça reste une part infime en fait.
Ouais, voilà. Donc Aldi, ils sont très bien. Il y a pas mal de pubs, etc. Donc on pense qu'il y a une plus grande présence, mais vraiment il y en a pas tellement de supermarchés d'Aldi non plus ici. Et donc là, Dr. Emerson a examiné si les lignes directrices autour de Coles et Woolworths, donc les règles d'opération, comment les règles qui doivent suivre dans le marché sont suffisamment strictes. Est-ce que ça marche? Parce que en fait, ces règles, c'est pas vraiment des lois, mais ces lignes de direction avaient été créées par les supermarchés eux-mêmes. Donc c'est eux qui avaient écrit ce qu'ils devaient faire et pas faire. Et c'est volontaire. Il n'y a pas de pénalité. Donc là, Dr. Emerson a dit que ça devrait pas être volontaire d'abord, ça devrait être obligatoire et il devrait avoir des pénalités financières et des pénalités potentiellement très très sévères, jusqu'à 10% de leurs revenus. Donc pour Coles et Woolworths qui font des milliards de dollars de revenus, c'est des sommes extraordinaires. Par contre, Dr. Emerson n'était pas du tout d'accord avec l'idée que le gouvernement pourrait forcer la vente de certaines parties ou certains magasins de Coles et Woolworths. Il pense que ça ne marcherait pas du tout non plus, parce que ce serait pas facile d'abord pour trouver quelqu'un pour les racheter. Il n'y a personne vraiment d'autre, sauf peut-être l'autre. Si on oblige Coles à vendre une partie de son business, ce serait peut-être Woolworths qui va la racheter. Et donc, dans ce cas-là, il y aurait encore moins de diversité. Ou l'autre possibilité, c'est que tout simplement, il n'y a pas d'acheteur. Donc, pour le consommateur, ça veut dire qu'il y aurait moins de magasins, moins de supermarchés dans leurs endroits. Donc, ils ne pensent pas vraiment que c'est une bonne idée. Par contre, ils pensent qu'il faut être plus strict, plus sévère avec eux pour qu'il y a des vraies conséquences pour Coles et Woolworths quand ils agissent d'une façon pas tout à fait honnête. Et pour leur part, les deux grands supermarchés ont dit qu'ils sont prêts à travailler avec les gouvernements pour vraiment développer des nouvelles lignes directrices. Parce que en fait, là, ils n'ont pas de choix. Ils sont obligés de le faire. Déjà, ils vont être soulagés que le gouvernement ne va pas les obliger à vendre une partie de leur business. Donc pour eux, de dire qu'ils sont contents de travailler pour changer complètement ces lignes de direction, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est sûr que maintenant il y aura plus de surveillance.
Ouais, c'est vrai qu'il faut dire que faut rappeler que c'est vrai que quand on y réfléchit, les supermarchés, on fait tous un peu nos courses dans un supermarché à un moment ou un autre, hein, qu'on le veuille ou non. Et en fait, le supermarché, c'est là où on voit que le coût de la vie a augmenté. On le voit aussi ailleurs, mais le supermarché, c'est semaine après semaine, on voit que le coût des denrées qu'on achète, parce qu'on achète à peu près tout le temps la même chose, on voit le coût augmenter. Et ce que vous nous dites là, c'est aussi surtout la relation avec les fermiers. Donc on parle des produits frais qui fluctuent. Donc c'est vrai qu'il y a eu l'excuse du Covid, entre guillemets excuse, il y a eu l'excuse du fait qu'il n'y avait pas assez de backpackers. Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ces excuses-là et les prix, ils descendent pas en fait.
Non, mais c'est ça le problème quand on a la plupart du pouvoir, c'est avec deux grandes compagnies, c'est qu'ils peuvent plus ou moins dire et faire ce qu'ils veulent. Ils ont tellement de pouvoir. Les fermiers, les autres fournisseurs, ils n'ont pas d'autre choix. Comme on vient de dire, Aldi c'est 10%, c'est rien. IGA c'est pas beaucoup. Donc s'ils vendent pas à Coles et Woolworths, à qui ils vendent? Donc c'est pour ça que c'est tellement compliqué, tellement ils ont tellement trop de pouvoir. Donc c'est pas une monopolie, mais c'est une duopolie.
Ouais, tout à fait.
Donc il y a tous les problèmes classiques d'une duopolie.
Voilà, voilà. Bon, on apprend, on prend des leçons d'économie en même temps. C'est ça qui est bien. Allez, on va parler d'une autre, une autre petite histoire qui est assez sympathique, mais le coût de la vie n'est pas le même pour tout le monde. Le poulain, le cheval fameux de course, Winx, qui est vendu pour une somme astronomique.
Astronomique, donc 10 millions de dollars. On ne s'est jamais vu. C'est la première fois qu'on voit un poulain vendu pour tant d'argent. Donc 18 mois, ce cheval. Donc la vente aux enchères, ça a commencé à 2 millions. Et bon, ça a monté, c'est monté très 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 vite. Il y avait de l'intérêt international, des gens qui voulaient l'acheter d'ailleurs. Mais en fait, ça a été vendu à quelqu'un qui s'appelle Debbie Kepitis, parce que elle était l'ancienne propriétaire de Winx. Pas le seul propriétaire, elle c'était avec d'autres personnes, mais c'était une des familles à qui appartenait Winx, qui était bien sûr un des plus grands chevaux qu'on a jamais vu ici en Australie, qui a gagné 33 courses de suite, ce qui était extraordinaire, qui a gagné 26 millions de dollars en prix avant sa retraite en 2019. Alors avant la vente du poulain de Winx, le record c'était 2,6 millions de dollars. Donc là on voit 10 millions, c'est vraiment énorme parce qu'il y a tellement de potentiel pour ce cheval, donc après le record de Winx. Donc voilà.
Winx c'est son papa. Winx étant le papa de ce poulain.
Voilà, exactement. Alors ouais, mais comme tu viens de dire, c'est les problèmes de prix, du coût de la vie dans les supermarchés, c'est pas vraiment un problème pour tout le monde. On peut payer 10 millions de dollars pour un cheval.
Oui, tout à fait. Ce poulain, c'est le nouveau Farlap ? On peut déjà le dire ou c'est, on
pas
espère
encore, pas, encore. Pas encore. Pas encore. Le poulain n'a pas encore été entraîné.
D'accord, ok.
Donc il faudra attendre quelques années encore.
D'accord.
Et ça va être vraiment intéressant.
On l'appellera le Mbappé de l'équitation quand il aura fait sa preuve, c'est ça?
On espère. Je crois qu'avec 10 millions de dollars, il espère que ça sera le Messi.
Voilà, tout à fait. Merci Nicolas.
Merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
Ciao.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.